Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du débat politique Patara de ce jour. Nous nous intéressons aux différentes enquêtes qui accusent les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes. L'ONG américaine Zé Centré et la chaîne CNN ont publié un rapport commun mentionnant, je cite, « Les FACA et les mercenaires russes ont commis de graves violations des droits humains ». La présidence récuse cette accusation et affirme que cette enquête ne reflète pas la réalité du terrain. L'Assemblée nationale estime pour sa part que cette enquête vise à compromettre les actions du gouvernement dans la recherche d'une paix durable dans le pays. Cependant, l'opposition démocratique exige que la lumière soit faite sur les rôles des Russes qui combattent aux côtés des forces armées centrafricaines. Ce rapport de l'ONG américaine Zé Centré et la chaîne CNN est publié après celui du groupe d'experts, je voulais dire, des Nations Unies sur des présumées violations des droits de l'homme en République centrafricaine. Question, que se passe-t-il en ce moment sur le champ de bataille? Comment ces enquêtes sont-elles menées? Quel est l'objectif recherché après plusieurs enquêtes accusant les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes? Y a-t-il des victimes des Russes qui souhaitent en témoigner sans risquer leur vie? Est-ce que ces différentes enquêtes visent à compromettre les actions du gouvernement dans la recherche de la paix? Que serait la suite à donner à ces enquêtes? Voilà tant de questions qui enrichiront notre débat de ce jour. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Paul Cressan-Bénin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du groupe de travail de la société civile et docteur en sciences politiques. Monsieur Mathurin Dimbelenakoui, bonjour.
Bonjour.
Coordinateur du mouvement Centrafrique Debout, une organisation de la société civile qui soutient les actions du gouvernement. Monsieur Alexis Ndouyabela, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller politique du Premier ministre et docteur constitutionnaliste. Et Monsieur Joseph Bindunga, bonjour.
Bonjour Armando.
Vous êtes député président du parti MDRC, membre de l'opposition démocratique. Je suis Armando Nguindi et le débat, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Messieurs, l'actualité oblige. Le Premier ministre Henri-Marie Dondra a rendu public mercredi dernier la liste de son équipe. Au total, 32 membres, dont 7 femmes. Messieurs, quelle appréciation faites-vous de ce gouvernement d'abord, en commençant par Paul Cressan-Bénin-Gaa?
Alors la question que vous me posez est une colle, mais je suis de ceux qui pensent que ce gouvernement pose un certain nombre de problèmes. Déjà, je trouve que le Premier ministre, Marie Dondra, a parlé très vite. Il a parlé très vite parce qu'il avait annoncé un gouvernement de large ouverture, un gouvernement d'action. Action, nous ne pouvons pas l'apprécier maintenant. Mais ouverture, on peut se rendre compte effectivement qu'il s'agit là d'un gouvernement de fermeture. Ça, il faut le dire. Maintenant, ce qui me gêne, c'est deux choses. Et je l'ai dit principalement, le fait qu'on puisse prendre les groupes armés au sein de ce gouvernement et le fait de prendre ces groupes armés en violation de notre loi, notamment la loi constitutionnelle qui est interdit aujourd'hui au président de la République de recourir à ceux qui ont pris les armes contre la République. Et au sein de ce gouvernement, nous en avons plus de 6 ou 7 qui viennent des groupes armés. Et ça, c'est fondamentalement gênant. Deuxièmement, je laisserai l'occasion aux femmes d'en parler, mais si on s'en tient à la loi de la parité, je pense que ça ne fait pas 35%. 7 femmes sur 32, ça ne fait pas 37%. Ça ne fait pas 35%. Et enfin, le dernier, je le dis, je pense qu'il y a quand même une dimension géopolitique. Et lorsqu'on met en place un gouvernement, c'est de veiller à ce qu'il y ait quand même une représentativité en termes de région. Et l'équilibre régional, de mon point de vue, n'a pas été respecté. Je prends par exemple le cas des groupes armés. Il y a au moins 4 ou 5 qui viennent de la Vakaga. C'est vrai, pendant longtemps, ceux de la Vakaga se sont levés contre la République, estimant que la région était abandonnée, même si c'est des arguments qu'on peut effectivement remettre en cause parce que toute la région de la République centrafricaine a été abandonnée. Et donc, le fait de brandir cet argument, de mon point de vue, à un moment donné, influence la décision des politiques centrafricains au point qu'on s'organise de telle sorte que ceux de la Vakaga aient de la place plus que les autres, au moins 4 ou 5 personnes venant des groupes armés de la région de la Vakaga sont représentées dans ce gouvernement. Ça gêne fondamentalement. Et donc, je pense que ce gouvernement, si vous voulez mon avis, j'ai pas envie de dire que c'est un non-événement, mais nous ne sommes pas loin de là.
Monsieur Dimbelenakoui, sur ce point, le nouveau gouvernement, à quelle appréciation faites-vous?
Moi, je pense que la Constitution a réglé le problème. La Constitution dit clairement que le président de la République nomme le Premier ministre, les ministres, un homme aux fonctions publiques, civiles et militaires. C'est un domaine qui relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Personnellement, Moi, je soutiens le gouvernement. Il y a certainement des raisons qui ont fondé le choix du président et du premier ministre. Ils savent ce qu'ils font. La RCA n'est pas un pays normal. Il faut se le dire, nous ne sommes pas un pays normal. Nous recherchons encore. Nous cherchons à asseoir la paix dans notre pays. Et je pense que il y a des critères dans ce sens qui ont certainement qui justifient certainement la mise en place de ce gouvernement-là. Maintenant, quant à la représentation des femmes, moi je pense que la Cour constitutionnelle avait donné une solution à cette question-là. Vous voyez, lorsqu'on a imposé, le code électoral impose aux partis politiques un certain nombre de femmes dans leur parmi leurs candidats aux différentes élections. Mais tous les partis politiques avaient saisi la Cour constitutionnelle pour dire qu'ils n'étaient pas en mesure de présenter le nombre de femmes qu'il faut. Et la Cour constitutionnelle a donné raison à ces partis politiques-là. Voilà, donc, en résumé, moi, je soutiens ce gouvernement en sachant qu'il y a des raisons qui, certainement, justifient la mise en place, la configuration de ce gouvernement-là.
Monsieur Diabella, vous êtes conseiller du Premier ministre. Il a annoncé un gouvernement de large ouverture. Est-ce que cette formation reflète ses propos?
Armando, je réagis par rapport à ce que l'honorable Dimbélé a dit tout à l'heure. Je m'inscris totalement dans droite ligne. Ce qu'il a dit, c'est un gouvernement qui a été formé et conformément à l'article 33 de la Constitution, le chef de l'État nomme le Premier ministre et sur proposition du Premier ministre nomme les autres membres du gouvernement. Donc cette question relève, comme il a dit, du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Moi, en tant que conseiller politique du Premier ministre, me demandais est-ce que je dois fournir des... Je peux répondre à deux points de vue. En tant que fonctionnaire de l'État, est-ce que je suis bien placé pour apprécier la formation d'un gouvernement? Non, j'entends. Il y a déjà même des critiques, comme l'a soulevé tout à l'heure Bilingan Cressin, il a formé, bon, tout ça a été critique, c'est tout à fait normal, il est dans l'OEA, dans la société civile. Mais est-ce que moi je dois m'inscrire dans cette logique-là pour dire, porter un jugement sur la décision, ce qui relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État? Oui, on est là, on souscrit. Et donc, il est le président arbitre, il a choisi les hommes qu'il faut pour accompagner sa politique et moi, en tant que fonctionnaire, mais si vous voulez, en tant que politiste, et donc selon mon analyse personnelle, vous savez, il y a un professeur d'université qui est spécialiste des sciences politiques, M. Jean Charlot, qui a rédigé un article intéressant, il dit « Un parti politique, c'est le gouvernement à laisser. » Donc on mime, quand on est dans un parti politique, on mime l'exercice du pouvoir. Et quand je vois la composition du gouvernement, telle que ça a été présenté, en commençant par le Premier ministre jusqu'aux membres du gouvernement, la majorité, vous voyez, c'est des membres de l'équipe du MCU, ce qui est tout à fait normal. Alors, ce que moi, je suis contre pour dire que le gouvernement large ouverture, j'ai dit, lorsqu'un parti politique gagne les élections, comme ça se passe d'autres ceux, il gouverne avec les...
Mais donc, dans ce cas, il ne fallait pas annoncer.
C'est quoi? Large ouverture, mais il y a une ouverture. Vous voyez, il y a le RDC qui est dans le gouvernement.
Oh,
il y a la société civile qui est dans le gouvernement. Et là, donc, il y a une certaine ouverture déjà qui... Mais pourquoi Benougaï, Ricardo? Il y a déjà une ouverture à ce point. Donc, déjà même, un représentant de l'opposition démocratique, de la société civile qui est... Donc, de mon point de vue, je pense que...
Mais il y a un certain point, monsieur le conseiller, si oui. Vous pouvez vraiment éclairer cette partie rapidement.
Oui.
L'opposition estime que cette formation du gouvernement viole la Constitution parce que le Premier ministre n'a pas contresigné le décret nommant...
On l'a dit tout à l'heure, non, il n'y a pas de contresigné, ça relève du pouvoir. Non, lisez l'article 33, alinéa. Alinéa, s'ils sont là, je l'ai ici, si vous voulez, on peut lire. Le président de la République, ça fait partie des pouvoirs du président. Le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition, il le révoque. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les membres du gouvernement et il peut également les révoquer. Donc ça, cet aspect, constitutionnellement, s'il n'y a pas problème de contre-signature du Premier ministre, c'est le président de la République qui nomme à ses fonctions, à haute fonction.
Voilà, merci. Le temps que vous avez imparti, Monsieur Joseph Bendonga, vous avez 2 minutes sur la formation du gouvernement de Monsieur Dondra.
La nomination de Monsieur Dondra comme Premier ministre de la République centrafricaine est un événement pour l'homme politique que je suis. Pourquoi? Parce que c'est une natte qui est faite sur une ancienne natte. On fait une ancienne natte avec une ancienne natte pour dire qu'on fait du neuf. Donc, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le problème du peuple centrafricain. Et nous attendons voir ce monsieur-là au travail, qui gagne les élections, le gère comme il l'entend. Mais je voulais, par rapport à ce qu'a dit M. Nako Edimbele, la RCA n'est pas un pays normal, oui. Et si la RCA est un pays, n'est pas un pays normal, mais on doit le gérer d'une autre manière que ce que M. Touadéra est en train de faire. Donc je relève ça de un. De deux, la parité. M. Ndouya Bella a dit que les partis politiques ont écrit à la Cour constitutionnelle pour dire qu'ils sont incapables de réunir les 35% ou bien les combien de pourcents pour avoir...
Oui, c'est M. Dimbélé qui l'a dit.
Écoutez, la Cour constitutionnelle a tort d'accepter cela. La loi est la loi. Il faut l'appliquer. Et le MDREC a présenté 3 femmes et 2 hommes. Si vous n'êtes pas dans la possibilité d'avoir les femmes partout, mais créez les conditions. Pourquoi a-t-on accepté que la parité doit être respectée? Dès que la loi est faite, vous voyez aux États-Unis, il y a tellement de tueries, mais la loi américaine dit que l'Américain, il doit porter une arme. Et ça, personne ne peut le contester. On ne doit jamais dénier à la Constitution ce qu'elle a dit. Vous voyez, ça aussi cause du tort à la République centrafricaine parce que l'article 28 dit que tous ceux qui ont pris les armes contre l'État ne peuvent pas participer au gouvernement. Et que l'article 23, le respect, le strict respect de la Constitution dans sa lettre et dans son esprit doivent être respectés. Vous avez vu que les rebelles sont maîtres dans ce pays. Alors, brûlons la Constitution. La loi est faite pour être respectée. Il faut la respecter. La loi, c'est la loi. Elle est dure. Nous devons l'accepter.
Merci beaucoup. Votre temps, Monsieur Bendonga, vous avez épuisé votre temps.
Juste un petit mot. On nous dit qu'il y a ouverture le RDC. Le RDC était allié au régime Touadéra pendant les élections. Le RDC est sorti pour aller aux élections et il revient à la maison, à la case de départ.
Oui, rapidement.
Oui, Armando,
le RDC vient d'être radié de l'opposition. Il y a une décision qui est sortie.
On gagne du temps parce que le vrai sujet arrive.
Juste deux points sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, c'est la question qui a été soulevée par M. Dimbélé concernant l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Non, c'était par rapport à la liste des candidats. Mais là, nous, il s'agit d'un acte qui relève de ce que vous appelez du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État vous dit qu'il est dans l'incapacité de trouver plus de 7 femmes dans son gouvernement? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que ça, c'est prendre l'arrêt, mobiliser l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle pour justifier le fait qu'on n'est pas arrivé à 35%, je pense que l'argument ne tient pas. Deuxièmement, et je m'arrêterai là, c'est la question du pouvoir discrétionnaire. Non, professeur, le pouvoir discrétionnaire, ce n'est pas le pouvoir de faire et de défaire sans pour autant que cela soit encadré. Le pouvoir discrétionnaire d'un chef de l'État est toujours encadré, soit par la Constitution et soit par la loi. Je vous donne un exemple simple. Que dit la Constitution? Que dit l'article 28 de la Constitution? L'article 28 de la Constitution fait office d'obstacle au chef d'État de nommer des rebelles dans son gouvernement. Et à partir de ce moment-là, son pouvoir discrétionnaire est encadré par cet article-là. Et donc, le chef de l'État, bien qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut dans un gouvernement, il doit se rassurer que ce pouvoir dont il dispose est encadré. Et l'article 28 est clair de ce point de vue-là.
Oui, non,
et donc, ayons le courage d'avouer,
nous allons clôturer la Constitution.
Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ayons le courage d'admettre et d'avouer que de ce point de vue, la Constitution a été bafouée. Hassan Bouba, par exemple, pour le citer, il n'est pas groupe armé. Il n'est pas membre de groupe armé. Hassan Bouba, par exemple. Vous voulez que je cite encore un autre? Toumoudéya, il n'est pas membre du groupe armé.
Abazen
et Abazen.
Alors, voyez.
Il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité. Si nous voulons
Monsieur Paul Kessan Benga, rapidement, conseiller. Je vous donne 30 secondes.
Pouvoir discrétionnaire, oui. Encadré par la Constitution, oui. Mais il faut pas simplement faire la Constitution. Moi, je suis constitutionniste. En dehors de la Constitution, il y a ce qu'on appelle des pratiques constitutionnelles ou des conventions de Constitution qui existent. Il n'y a pas seulement que la Constitution. Il y a le comportement des acteurs politiques qu'il faut prendre en compte. Et donc, les conventions qui existent, voilà. Donc, j'en viens. Il y a un accord.
Calmez-vous.
Écoutez, il y a un accord politique qui a été signé entre les groupes rebelles et dans le sens de cet accord.
On ne le modifie pas.
Non, écoutez,
ça fait partie des pratiques.
Les pratiques, c'est
pas simplement
que les pratiques à côté de la Constitution. Ne peut pas
vous allez prendre la parole.
L'article 23, toute personne, je vous le lis, s'il vous plaît, vous me permettez.
Monsieur Benunga, est-ce que vous avez.
Voilà, je vous le lis. Toute personne résidant sur le territoire national a l'obligation de respecter en toutes circonstances la Constitution, les lois et les règlements de la République. Donc,
monsieur, parlez un à un.
L'article 23 de la Constitution verrouille les pratiques. Mais c'est par rapport à cela qu'on a instauré.
On reste dans l'article.
Monsieur Benunga.
Cette nomination doit se faire conformément aux dispositions de l'article.
Ah, mais dans
l'article.
La Constitution, on parle aussi, si vous remontez à le préambule, à l'inclusion.
Monsieur Ndoui, écoutez. Monsieur Benunga, je vous retire vous deux la parole. Non, je vous en prie.
Je rappelle à
Monsieur Ndoui.
Monsieur Ndoui, Monsieur Ndoui, Abela,
l'article. Est-ce que vous voulez respecter la police du
Gabon? Oui, toutes les pratiques malsaines.
Parler un à un, parce que nous parlons aux auditeurs. Nous parlons à ceux qui nous écoutent.
Donc, Monsieur Benunga.
Monsieur Benunga, merci de m'avoir remis la parole et je pense que nous allons clôturer cette partie. Je vous en prie, on ne va pas poser un autre débat.
Une minute,
c'est beaucoup. Je vous donne 30 secondes, monsieur Nakwe.
Je vous ai dit tout à l'heure que la République centrafricaine n'est pas un pays normal. La République centrafricaine se recherche. Hein? Le président de la République, dans son serment, dit qu'il garantit la paix, la sécurité au peuple centrafricain. Et il recherche tous les moyens pour parvenir à cette fin. Et l'un des moyens, vous le savez, c'est la présence de certaines personnes au sein du gouvernement et de certaines administrations. Ne nous le cachons pas. La Constitution, elle est là, c'est vrai. La Constitution, elle est là.
Il faut reconnaître l'erreur à la base.
Je pense que le chef d'État est obligé.
Monsieur Nakwe, vous terminez.
Oui, je finis.
Ça, c'est plus clair. Le chef d'État
est obligé.
Oui, monsieur Paul,
le chef d'État n'est pas obligé.
Il y a faute constitutionnelle.
Le chef d'État n'est pas obligé, s'il vous plaît.
Est-ce que vous acceptez qu'on revienne à notre sujet du jour?
S'il vous plaît.
Le pouvoir discrétionnaire est compétent.
S'il vous plaît. Il ne faut pas induire
l'article 28 est clair.
Vous savez le cadre dans lequel la Constitution de la République centrafricaine a été rédigée.
Respecter la police du débat,
c'était déjà l'état de non-droit. Et pour éviter que les chefs d'État ne puissent user de leur pouvoir discrétionnaire,
c'est dans l'esprit de la Constitution.
Cette constitution,
il y a trop d'anomalies dans cette constitution.
Oui, en attendant, respectons cette constitution. Nous sommes d'avis. En attendant, respectons cette constitution.
La constitution est là.
Si, il y a des pratiques.
Non, les pratiques ne sont pas.
Qui existent, ne peuvent pas marcher. Vous ne savez pas.
Avec l'article 23.
Monsieur, d'accord. Je vous retire tous la parole et parlons maintenant de notre sujet. Le rapport de l'ONG américaine The Sentry et la chaîne CNN accusent les militaires russes de graves violations de droits de l'homme en Centrafrique. Les auteurs du document recommandent aux Nations Unies et aux partenaires de Centrafrique des mesures pour arrêter cette hémorragie. Igor Jaskin-Senapai, qu'est-ce qui est dit dans ce document ?
Meurtre ciblé, exécution sommaire, viol, torture de masse et disparition forcée. Ce rapport de la chaîne américaine CNN en collaboration avec l'ONG américaine The Sentry accuse, selon ses propres termes, les mercenaires russes et l'armée centrafricaine de crimes de guerre. Des sources de CNN indiquent qu'un nombre inconnu de mercenaires syriens qui combattaient pour des entrepreneurs russes en Libye auraient été envoyés en RCA. Se basant sur le rapport confidentiel de la MINUSCA et des témoignages des victimes présumées, CNN et The Sentry évoquent l'attaque de la mosquée Al-Taqwa à à Bambari le 15 février dernier, attaque qui aurait fait entre une douzaine et une vingtaine de morts, parmi lesquels les femmes et des enfants. Selon de nombreux témoins cités par le rapport, les Russes auraient ouvert le feu sans discernement sur des civils, dont beaucoup se cachaient dans cette mosquée. Toujours à Bambari, le 14 mars, un groupe de Russes aurait abattu le chef d'un village près de cette ville après l'avoir accusé d'être un sympathisant des rebelles, selon un chef communautaire d'un village voisin. Ce responsable a déclaré que les Russes ont mis le feu à 60 maisons et volé des motos et d'autres marchandises. Il a également affirmé que les Russes avaient agressé plusieurs femmes dont certaines avaient enfui dans la brousse pour s'échapper, mentionne le rapport. D'autres maisons auraient été incendiées le 23 février dans un village à environ 10 km de Bossangwa dans l'Ouham. Enfin, le rapport évoque l'enlèvement de 4 personnes à Bria fin avril. Le média américain CNN a vu des photos des hommes avec des cagoules sur la tête mis dans un avion par des mercenaires russes sur la piste d'atterrissage local. Le document de la MINUSCA demande instamment une enquête sur l'endroit où les 4 personnes auraient pu être amenées. Selon CNN et Vcentre, le nombre de forces russes en RCA serait passé de 170 en 2017 à 2300 aujourd'hui. La Russie aurait 30 bases principalement au centre et à l'ouest du pays dans les zones minières. Toujours selon CNN, contacté, la Russie n'a pas souhaité réagir à ces accusations. De leur côté, les autorités centrafricaines parlent d'une simple dénonciation et ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Le Parlement, en réaction hier sur notre antenne, a rejeté ces accusations et évoque un rapport qui ne reflète pas la réalité du terrain.
Merci Georges Kassinapa et M. Alexis Nduyabela. Vous venez d'écouter le résumé de ce rapport, le rapport de CNN qui est publié en commun accord avec cette chaîne américaine, cette ONG américaine Zecentri. D'abord, on note des termes comme exécution sommaire, viol, torture de masse et disparition forcée. N'est-ce pas que les accusations sont fortes?
Oui, non, c'est très très fort. Exécution sommaire, là, bon, moi, ça me surprend un petit peu. Parce que là, il faut suivre un peu le mouvement de l'histoire. Il y a des forces alliées qui se sont adjointes aux forces nationales pour l'opération de ratissage. Quand on fait une opération de ratissage, c'est vrai, il y a des dommages collatéraux. Et lorsque l'État agit dans le cadre du monopole de la violence légitime, est-ce qu'on doit mener des enquêtes à côté pour dire non, 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 là, il y a violation des droits humains, etc. et autres. C'est ça la question encore. On voit les groupes qui arrivent et qui ne remplissent pas. Il y a quand même une formalité à remplir pour aller mener des enquêtes sur le terrain.
Et donc c'est qui s'est passé, ce sont des violences légitimes. Hein? Vous avez parlé de violences légitimes.
Violences légitimes, mais j'ai dit, lorsqu'on regarde les événements, il y a les forces qui ont exercé leur ratissage et quand ils partent, en leur absence, il y a les rebelles qui reviennent encore, qui s'en prennent. Est-ce que ce meurtre-là, est-ce que c'est imputable aux forces alliées ou au groupe de la CPC? C'est ça qu'il faudra analyser. Parce que là, on lit un peu le rapport, on voit. Et puis moi, j'ai lu le rapport récent présenté au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des Nations Unies, expliquant que, après les opérations de ratissage, les populations sont envahies par le groupe rebelle qui vient en guise de mesures de représailles pour exercer des meurtres. Alors, il faudrait faire la part des choses. C'est pour ça que je dis, est-ce que ces enquêtes menées ont utilisé les instruments, les ressources qu'il faut? Est-ce que ces enquêtes quantitatives et qualitatives, sur la base de quels documents? Est-ce qu'il y a parce qu'il y a quand même, dans les méthodes de sciences sociales, il y a des approches pour mener des enquêtes. Il y a des enquêtes quantitatives, des enquêtes qualitatives. Est-ce qu'ils ont utilisé tous ces profils-là pour en arriver à leur conclusion qu'il y a eu meurtre?
Et je vous rappelle que leur enquête est basée aussi sur le rapport des Nations Unies.
Oui, dis donc.
Que de la MINUSCA.
Voilà. Et donc, mais tout ça, là, je dis, c'est documenté. C'est pour ça. Quand on utilise, on a mené des rapports, machin, documentés, etc. En un temps record. On peut mener des enquêtes comme ça pour produire des résultats en un temps record. Et puis on est en période de situation de crise.
Et donc ça vous surprend, hein?
Moi ça me surprend. Que là quand même, il faut être objectif dans la démarche.
Les 10 minutes se sont épuisées. On va gérer maintenant le temps pour gagner du temps parce qu'on a beaucoup de points à débattre. Rapidement avec vous, monsieur Mathurin Timbélé-Nakoué, sur ce rapport, le résumé que vous venez d'écouter, Radio Ndikelu, que vous a présenté.
Ce qui étonne, premièrement, c'est que ces rapports arrivent au moment où les forces alliées et les forces armées centrafricaines reprennent les localités jadis occupées par les groupes armés. Hein. Deuxièmement, il n'y a pas eu de rapport de ces ONG et ces médias lorsque les groupes armés occupaient, comme le prétendaient certaines personnes, plus de 80% du territoire national. On n'a jamais vu ces ONG et ces médias venir faire des enquêtes sur ce que faisaient ces groupes armés sur le territoire national centrafricain.
Il y avait eu des enquêtes, hein?
Oui, mais ces enquêtes n'ont pas pris la même dimension que celles qui sont diffusées aujourd'hui. Aussi, je pense que le peuple centrafricain n'est pas un peuple damné de cette terre-là. Vous savez, depuis l'indépendance, En 1966, coup d'État. 1979, coup d'État. 1982, tentative de coup d'État. 1992, annulation des élections. 1996, mouvement des militaires.
30 secondes.
2001, 2003, coup d'État. 2013, coup d'État. Et nous sommes là, perpétuellement en guerre. Perpétuellement en guerre. Non, il faut trouver une solution. Le chef de l'État, en accédant au pouvoir, a promis rétablir la paix. Il se trouve que nous sommes allés à Khartoum. On a dit qu'il faut discuter avec les groupes armés. Nous avons discuté avec les groupes armés. On est revenu. Ces mêmes groupes armés-là ne respectaient pas les termes de l'accord.
Mais on est sur les violations hein, imputées aux forces armées centrafricaines et aux alliés.
C'est ce que je vous dis. Je dis que ce n'est pas possible. Et pourquoi, ce rapport ne parle pas de violations faites par la CPC et autres? Pourquoi ce rapport-là n'en parle pas? Je vous dis, je vous ai dit que ça étonne. Ça étonne que ce rapport-là n'arrive qu'au moment où les Russes, les Rwandais et les militaires centrafricains sont en train de reprendre les zones jadis occupées par les groupes armés.
Mais quand vous l'avez parlé des forces armées centrafricaines accompagnées des Russes et des Rwandais, mais dans ce rapport, on n'a pas mentionné
les Rwandais.
Donc on y reviendra pour comprendre pourquoi on cible les Russes qui combattent aux côtés des forces armées centrafricaines. Monsieur Paul Cresson Bininga, sur ce rapport, avec des mots forts, des accusations fortes contre les forces armées centrafricaines.
En deux minutes, qu'est-ce qu'on peut dire?
Non, on y revient, on va point par point. Hein. Je vous en prie. Je vais à ce que chacun ait le temps de parole normalement pour qu'on puisse ne pas avoir de frustration sur ce plateau. Monsieur Paul Cresson Bininga, vous avez la parole.
Armando, merci. Cette question, je le disais tout à l'heure hors micro, qu'il s'agit d'une question extrêmement sensible parce que c'est une question qui touche à la fois la dimension sociale, qui touche la vie de la population centrafricaine, mais qui nous fait plonger également dans la géopolitique et dans la géostratégie. Et je vais vous dire pourquoi je dis cela. Mais je voudrais ici dire que nous avons tous, sur cette question, péché. Quand je dis nous avons tous, je vais dire toutes les couches sociales, toutes les forces vives de la nation. Je vais vous dire pourquoi. Le gouvernement a péché. L'Assemblée nationale a péché. Les médias ont péché. La société civile a péché. Je vais vous dire pourquoi. En temps normal, ce n'est pas le rapport de CNN International et The Century qui devait nous réveiller. Ayons le courage de l'admettre. Avant CNN International et The Century, il y avait les Nations Unies, il y avait RFI, il y avait bien d'autres organisations.
Benjunga Joseph.
Laissez-moi finir, je vous en prie.
Oui. Il y avait bien. Vous avez dit que tout le monde a péché.
Non, monsieur, je parle des couches sociales. Je parle des couches sociales et j'ai cité.
Je
parle des couches sociales et j'ai cité. Donc, je prends par exemple le cas de la société civile. La société civile aurait dû faire un rapport. Aurait dû descendre sur le terrain en temps normal. Je prends le cas du gouvernement. La réaction du gouvernement a été timide, même si un comité d'enquête a été mis en place. Je parle par exemple de l'Assemblée nationale. J'ai suivi la déclaration du bureau de l'Assemblée nationale.
On y reviendra, on y
ce n'est pas en réalité ce que l'Assemblée nationale devrait faire. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale devrait faire? L'Assemblée nationale devrait interpeller le gouvernement pour entendre le gouvernement, puisqu'il y a un comité d'enquête en place. Et à partir de ce moment-là, ça permet à l'Assemblée nationale d'avoir une certaine visibilité. Ce qui n'a pas été fait, c'est proche de nous avons tous péché. Maintenant, ayons le courage également de reconnaître un fait. C'est lequel? En plus de ce rapport-là, je vais parler de ce rapport. En finissant, je terminerai avec ce rapport. Mais en plus de ce rapport, il y a quand même des voix qui s'élèvent dans l'arrière-pays. Des centrafricains qui parlent. Dans les groupes WhatsApp, vous écoutez des voix. Il y a des plaintes quand même. Il y a des gens qui estiment, par exemple, que le groupe Wagner a commis des exactions. Le groupe Wagner a pillé. Le groupe Wagner aurait violé des femmes. Et ça ne vient pas du rapport. Il y a des centrafricains qui en parlent. Il y avait un cas également à Bambari récemment où un site de déplacés internes a été incendié. Et selon les témoignages recueillis, ça et là, on accuse effectivement les forces loyalistes. Et là, il faut mener des enquêtes, descendre sur le terrain pour vérifier ces faits-là. En ce qui concerne le rapport, je ne sais pas pourquoi on est surpris. On ne doit pas être surpris, même s'il y a des éléments qui rendent vrai ce qui se dit ça et là dans ces rapports-là, mais il y a quand même une dimension géopolitique et une dimension géostratégique de l'affaire. Et lorsqu'on n'est pas une nation forte, lorsqu'on n'a pas une nation unie, on sera confronté effectivement à ce type de rapport. Moi, j'aurais aimé que les centrafricains, les couches sociales que j'ai énumérées ici, les institutions de la République que j'ai énumérées ici, puissent en âme et conscience, descendre sur le terrain et rendre également un apport vérifié. Mais cela ne doit pas nous faire oublier le fait que dans l'arrière-pays, nous avons des plaintes des populations qui estiment que, effectivement, les groupes, notamment les Russes, ceux du groupe Wagner, ont commis des exactions. Permettez-moi 30 secondes.
Je vous en prie.
Je suis de ceux qui pensent, et là je rejoins M. Djimbélé, qui pensent que la RCA a tant souffert et s'il faut prendre attache avec n'importe quelle nation pour libérer ce pays, ça vaut la peine. Mais je suis en désaccord avec le professeur Ndui parce qu'il faut respecter les droits de l'homme et si vous voulez, il faut tenir compte de la sensibilité des uns et des autres. C'est extrêmement important,
monsieur Paul, surtout monsieur pour les forces royalistes. Joseph Bergard, sur ce point, vous avez donné votre point de vue par rapport au rapport, le résumé de tout ce rapport que nous venons de vous présenter.
Je ne vous répondrai pas par rapport à ce rapport, mais par rapport à ce que moi-même, le MDRC, nous avions fait dans ce pays lorsqu'il y a eu l'attaque de la CPC contre les forces conventionnelles de la République centrafricaine et la riposte organisée par le régime Touadéra. Il y a eu de très graves violations des droits de l'homme en République centrafricaine. Je l'ai décrié, il y a eu des exactions des Russes contre le peuple centrafricain. Les exactions des Russes, même contre les forces légales, les FACA de la République centrafricaine. Les choses se sont produites à Zalingo, Boganangon, Boganado, Boda, Carrefour de Mambélé. Les bombardements sauvages, c'était les civils qui ont encaissé. On a pris des femmes, on les a violées. Plusieurs hommes, parfois, les Russes jettent un billet de 10 000 francs sur la femme inerte et s'en vont. Fouillent les maisons, ramassent même les plaques mousse des habitants. Quand ils arrivent dans les villages, ils tirent sur les animaux domestiques, les porcs, les cabris, les jeunes qu'ils attrapent, qu'ils arrêtent, les cicatrices qu'ils portent, ils doivent les justifier. S'ils justifient mal, ils sont exécutés.
Mais est-ce que vous avez les preuves de tout ce que vous avez?
Les preuves existent aujourd'hui. Qu'on prenne Bendunga, qu'on aille dans la ville de ma mère, à Bogila. Quand les Russes sont arrivés, ils ont vidé les magasins pour aller vendre.
C'est vrai,
mais,
ça.
Mais je suis de Mère Souma de Bogila. Pendant que les choses se faisaient, on m'a appelé. On m'a appelé à Bangui. Et ce qu'ils ont pillé à Bogila, ils sont allés vendre à Pawa, les gens ont refusé, ils l'ont vendu à Bozou. Un village dont le nom vient de m'échapper, de Bossantélé, les cabris, le chef du village. Non, écoutez, vous pouvez rire, parce que vous avez l'habitude de rire sur la mort des Centrafricains. C'est Joseph Bendunga qui le dit, et je viens d'adresser à l'Assemblée nationale, quand le premier vice-président de l'Assemblée nationale a rédigé ce rapport, j'ai posé des questions à l'Assemblée nationale.
Monsieur Bendunga, vous avez posé votre temps, mais je reste avec vous pour vous donner un temps supplémentaire, comme ça vous allez continuer. Ouais, voilà. Et sur ce point, ce rapport va jusqu'à mentionner, je cite, « Les mercenaires russes et les FACA ont commis de crimes de guerre. » Est-ce que, à l'heure actuelle, les faits sont avérés pour qu'on parle de crimes de guerre?
Effectivement, parce que ce sont des gens armés qui s'en sont pris à des populations, qui confondent la population civile avec les CPC. Chaque fois que, si vous voyez bien la description de la guerre qu'a menée les Russes et les FACA, chaque fois qu'ils arrivent quelque part, les CPC se retirent, ce sont les paysans. Et la dernière tuerie, on m'a appelé de Bokaranga. Quand ils rentraient à Bokaranga, ils ont tué quelqu'un au quartier Dumba. Un monsieur qui les a vus, ils l'ont pris. Il semblerait que cette personne a des munitions sur elle et elle a voulu fuir, ils l'ont abattu. Ensuite, ils sont arrivés au quartier Eremanji, ils ont battu des gens. Donc, les exactions des troupes russes et des FACA se font contre la population et les Russes, au début, pigeaient mal les FACA et même les abattaient. Donc, ce que je dis, c'est moi, Bendunga, qui le dis et je ne répondrai devant aucune commission d'enquête. Parce que le parquet, j'ai même interpellé le bâtonnier.
Quelques secondes.
J'ai même interpellé le bâtonnier de l'ordre des avocats centrafricains pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites, les organisations de défense des droits de l'homme de la République centrafricaine? Donc, ce que le peuple vit avec les Banyan Moulengue, avec les rebelles de Bozizé, c'est du jamais vu. S'il vous plaît, j'ai oublié. Il y a Boali, la population de Boali a interpellé le premier ministre Ngré Bada pour lui dire qu'ils l'ont élu. Mais les Russes les tuent comme des lapins.
Votre temps est terminé. Monsieur Paul Cressan Beninga, vous voulez réagir sur ce point avec la question des mercenaires russes, selon le terme, et je vous en prie. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut parler de crimes de guerre avec ce qui se passe sur le terrain?
Alors, Amando, je répondrai à votre question, mais je voudrais commencer par la question des preuves. Non, le professeur Diabla le sait bien, en droit, il y a ce qu'on appelle également la preuve testimoniale. Il y a des témoignages qui nous viennent de l'arrière-pays. Boali,
et ça, la société
Boali
civile documente sur ce...
Oui, et c'est pourquoi j'ai plaidé coupable, parce que j'ai dit en toute honnêteté, nous aurions dû
descendre sur le terrain. J'ai plaidé coupable à ce niveau-là. Et vraiment, je demande pardon au peuple centrafricain pour ça. La société civile aurait dû descendre sur le terrain pour toucher du bout de doigt la réalité. Et donc, les témoignages qui nous viennent de Boali, qui nous viennent de Kouy, qui nous viennent de Bambari, qui nous viennent d'un peu partout, de Bogila, de Pawa, de Bozoum, sont concordants quand même. Laisse entendre qu'il y a des exactions qui ont été commises. Est-ce que maintenant ces exactions sont des crimes de guerre? Je ne pourrais le dire. Je ne pourrais le dire parce que de mon point de vue, c'est extrêmement important que les gens descendent sur le terrain pour s'en rendre compte. Maintenant, je vous disais tout à l'heure ici que la question est très sensible. J'ai l'impression que nous prenons cela à la légère. Mais le président Bedungama m'a dévancé. Je vais lui emboîter le pas sur cette question-là au niveau de précédents historiques. Vous savez, nous avons eu dans ce pays les Banyamulenge. Nous avons eu les Banyamulenge. Nous avons négligé cela et nous savons ce que ça s'est produit après. Nous avons eu les libérateurs avec les Akawa, les Gourons, tout cela. Nous avons eu la Seleka. Aujourd'hui, nous avons les groupes Wagner. Il faut faire la distinction. Je suis de ceux qui pensent que l'État centrafricain est en droit d'avoir un accord avec la Russie. La présence des forces russes ici, en réalité, ne doit gêner personne du point de vue de droit. La présence des forces rwandaises ici, aux côtés des forces armées centrafricaines, ne doit gêner personne. Parce que du point de droit, ça ne gêne pas. Ce qui gêne davantage, c'est le groupe Wagner. Et on a tendance à tout confondre. Et je suis heureux que tout le monde a relevé autour de ce plateau ici que les forces rwandaises n'ont pas été pointées du bout de droit. Et donc, il faut établir les responsabilités. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas exaction. Ce que je sais, c'est qu'il y a exaction. Je ne suis pas à mesure de qualifier ces exactions de crimes de guerre. Maintenant, puisque les exactions sont là, sont commises, les populations en souffrent. Il faut établir les responsabilités.
Il faut établir les responsabilités, Monsieur Paul Lokrissa Beninga, Monsieur Mathurin Djimbele Nakwe, vous avez compris, il y a des termes qui sont vraiment forts dans ce rapport, comme crime de guerre qui aurait commis par les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes, et qu'on les qualifie des mercenaires dans ce rapport.
Merci. Je commence par la question suivante. Finalement, qu'est-ce que nous, les Centrafricains, nous voulons? Nous voulons un pays perpétuellement englué dans la guerre, dans la crainte. Vous avez parlé de Boali, de tuerie à Boali. Mais il se trouve que lorsque, au début, il y avait les menaces de la CPC, moi j'étais vice-président à l'Assemblée nationale et ce jour-là j'étais seul. Moi j'ai invité les ministres concernés à l'Assemblée nationale, nous en avons discuté. On a été rencontrer le chef de l'État et c'est le groupe, c'est les forces portugaises qui étaient allées à Boali. Ce n'étaient pas les Russes au début. C'était les Portugais qui étaient allés à Boali. J'étais là. Est-ce que les Portugais ont tué les jeunes de Boali? Non. C'est plus tard que les forces armées centrafricaines sont allées à Boali. Les forces armées centrafricaines seules sont allées à Boali jusqu'à Bossembélé.
Donc il n'y avait pas la présence.
Il n'y avait pas la présence russe. Les gens ont menti que la CPC, les éléments de la CPC sont venus, ils ont détruit les biens de l'ancien Premier ministre, que les jeunes sont allés détruire tout et tout. Moi, je suis allé jusque dans la construction de l'ex-Premier ministre. Rien n'a été détruit. Rien n'était fait. Vous voyez comment les gens sont. Beaucoup, 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 beaucoup de mensonges. Beaucoup de délations. C'est plus tard que les Russes sont arrivés. Quand on a dit que les Russes ont tué à Boda, j'étais encore député à l'Assemblée nationale. Je suis allé à Boda. Nous sommes allés à Boda. Mais quand on a été, tout le monde semblait être très content.
Est-ce que vous avez été à Boda pour investiguer sur cette...
Si. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que les Russes ont envoyé un drone sur un village, que beaucoup de gens seraient morts. Nous avons été. Mais les gens, on a été dans ce village-là où on vend beaucoup de manioc.
Et c'est du mensonge.
C'était du mensonge. Nous avons posé des questions, c'était du mensonge. Nous avons été jusqu'à Boda, c'était du mensonge. Je suis d'accord, mais je me plaignais tout de suite.
Oui, allez-y,
tout
à allez-y.
Vous voyez le 27 décembre 2020, le peuple centrafricain devait aller aux élections. J'ai conduit une délégation de députés à la MINUSCA. Personne n'est contre la MINUSCA. Personne n'est contre personne. Tout le monde peut venir. Si leur venue, c'est pour défendre la RCA, c'est pour aider la RCA à sortir de cette boue, nous applaudissons. Nous avons été, monsieur le journaliste, on nous a dit, Bangassou, tout est bien, les élections auront lieu. Bambari, tout est bien, les élections auront lieu. Partout que les élections auront lieu, qu'est-ce qui s'est passé le 27? Non. Au vu de tout ce que nous avons vécu, au vu de toutes les souffrances que nous avons endurées, je pense que pendant des moments pareils, pendant les moments où les forces armées centrafricaines sont en train de faire de grands efforts pour libérer le pays, il devait avoir une union sacrée autour de cette armée-là.
Le temps que vous avez déjà
parti. Qu'est-ce qu'il y a des problèmes
on devait se retrouver comme vous l'avez fait. Moi, je vous admire. Je vous admire, hein, monsieur Binunga, pour le rapport que vous avez adressé à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une action patriotique.
Merci beaucoup. Je vous coupe voilà. Là parce que vous avez dépassé largement le temps que je vous ai donné. Monsieur Ndoui Abela, sur le rapport, sur ce rapport, sur ces questions, vous avez vu le développement, vous avez écouté le développement de monsieur.
Encourager nos militaires.
Monsieur Mathurin Dumelako, vous. Merci. Vous avez écouté le développement de Joseph Bendunga sur cette situation. Il a des preuves. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce rapport, le gouvernement a eu l'écho de ce qui se passe à l'intérieur du pays?
Ben, pourquoi pas? Je crois que c'est dans cette perspective-là que le gouvernement a mis en place la commission d'enquête spéciale pour recueillir des informations par rapport.
Et ça, c'est après.
Hein. C'est normal.
Le rapport qui a.
Après le rapport, je crois que le gouvernement a mis en place une commission d'enquête spéciale et cette commission est à pied devant de mener des enquêtes. Frère, nous sommes tous des fils de ce pays. Comme l'a rappelé mon grand frère Dimbélé, on a traversé des périodes assez difficiles. J'ai vécu le coup d'état de 2013. Nous tous, comme il l'évoque, en disant, quand il le dit, ça m'a écouté, mais moi, j'ai vécu les situations de coup d'état. Et donc, ce que nous voulons.
Moi, je n'ai pas vécu les coups
d'état. Et donc, il faudrait qu'on évite. On est en train de faire un effort pour aller au chef de l'État.
Mais s'inscrire dans cette mesure.
Mais attendez, non.
Monsieur Benunga,
vous avez parlé, je n'ai pas réagi. Souffrez de m'écouter. Ne me perturbez pas.
Allez-y.
Ne me perturbez pas. Vous avez parlé, moi je suis resté comme moine, je vous ai écouté religieusement. Acceptez aussi de m'écouter.
Oui, gagne du temps rapidement.
Et donc, les forces sont venues, sont intervenues. Et puis le chef de l'État, il agit conformément à la Constitution. Si la République, l'intégrité.
Oui, les uns et les autres parlent de son droit. Oui, c'est normal.
C'est normal. Mais
pas sur le terrain, on parle des accusations.
Accusations.
Pas
mais
contre
oui.
Les groupes armés, mais
maintenant,
contre
attends, mais oui, je dis, il y a des informations contradictoires à Bambari. Moi, j'ai suivi le maire de la ville de Bambari. Il est intervenu sur les réseaux. Tout le monde, moi, je l'ai écouté. Le sous-préfet, il a dit non, les Russes, ils sont arrivés, ils ont simplement pourchassé ceux qui commettent des troubles, mais ma population est là. La population n'a souffert de rien du tout. Ça, c'est le maire. Moi, je suis scientifique, je réagis sur ce que. Et non, sur les ondits. Et lorsqu'on dit, parce que lui, il me contredit, parce que bon, voilà, je dis, mais l'État agit. Nous tous, nous sommes détenteurs. On peut exercer des violences sur les uns et les autres. On peut exercer des violences, je peux tabasser ma femme, tabasser mon frère, etc. Ça, c'est des formes de violence. Mais lorsque l'État agit, pas moi qui le dis. C'est Max Weber, il a étudié, il dit qu'il a fait Sciences Po. Le monopole de la violence légitime, ça appartient à qui? Ça appartient.
Mais voilà. Contre
et lorsque l'État
arrange
en l'État, on dit violation des droits de l'homme. Et là, c'est
général.
Quel type de violation de. On est dans la généralité.
Contre son peuple.
Quelle violation de droits de l'homme?
Calmez-vous, vous terminez rapidement, monsieur. Vous avez
alors,
30 secondes.
On dit, et là, je ne suis pas d'accord, il faut faire attention.
30 secondes.
Ne mentons pas au peuple centrafricain. Je pense qu'il a rappelé, il a dit les Russes interviennent ici dans le cadre d'un accord. Est-ce qu'il s'agit des mercenaires de Wagner, etc.? Non. C'est des instructeurs russes qui sont arrivés dans le cadre d'une structure bien organisée qui s'appelle la COSI. C'est le DG, il est intervenu pour répondre au journal.
Mais dans ce rapport, on a parlé des
officiers. C'est des officiers supérieurs russes qui interviennent, qui sont préparés pour intervenir dans le cadre de la sécurité internationale. Ce ne sont pas des spécialistes de Wagner, etc., comme on le dit, et qu'on le laisse
en tant que instructeur. Vous avez terminé votre temps. Je vous invite à suivre l'extrait de la déclaration du bureau des députés Evariste Ngamana, premier vice-président du Parlement.
Le bureau constate avec étonnement que le rapport a mis en cause l'honnêteté du pouvoir en place en le taxant de corrompu. N'a pas fait allusion à l'accord politique de paix en République centrafricaine qui, malheureusement, a été violé plusieurs fois par certains groupes armés. Les auteurs de cette enquête ne se sont en réalité jamais rendus en République centrafricaine. L'objectif de ce rapport vise à entraîner des sanctions contre la République centrafricaine tant sur le plan politique, militaire, que financier, alors qu'aucun rapport n'a été malheureusement publié sur les exactions des dix groupes armés. Les éventuelles sanctions risquent de contribuer à l'aggravation de la souffrance du peuple centrafricain déjà confronté aux multiples maux générés par l'occupation d'une partie du territoire national et les différentes exactions qui s'en sont suivies. Le bureau de l'Assemblée nationale s'étonne également du fait que les nombreuses missions des Nations Unies et autres n'aient pu pacifier la République centrafricaine. Et cela n'a pas fait l'objet d'une quelconque enquête. Le bureau de l'Assemblée nationale souhaite vivement que l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis ainsi que d'autres partenaires prennent du recul par rapport à ce rapport dont les conclusions sont totalement erronées face à la réalité du terrain.
Voilà, c'était donc Evariste Ngamana, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Benunga, vous dites que vous ne vous reconnaissez pas dans cette déclaration en tant que député, et pourtant c'est le bureau qui a fait cette déclaration.
Avant de répondre à votre question, je vous donne un exemple de pillage des Russes dans la ville de
Wangé. Mais aussi votre temps.
Oui. La SECNA est en train de construire des immeubles à l'intérieur de la concession de l'aéroport. Les Russes qui étaient positionnés là ont pillé les tôles. le ciment, la chaux, et vendre...
Non, je ne vous berce pas.
Ce que je dis là, je vais vous montrer la personne à qui les Russes ont vendu cela.
Intervenez sur la question précise qui nous est posée.
Donc, attendez. Soyez choqués.
Respectez quand même les Russes qui sont venus.
Les Russes sont des tiens, des criminels.
Non, c'est quand même...
Les FACA sont capables de rétablir la paix en Centrafrique, mais on ne leur a pas donné les
moyens. Monsieur, vous revenez sur ma question pour gagner du temps, je vous en prie.
À votre question. Je suis Bendunga, j'ai dit ça. Ils ont vendu la boutique là. C'est à Kétégoussa. Je vous amène, monsieur Ndouya Bouila. Je ne me reconnais pas dans la déclaration. Vous voyez, il a dit une chose et son contraire. Quand il a dit qu'il n'y a pas eu de rapport. Et la deuxième interrogation qu'il a menée, il y a eu un rapport et on est en train d'enquêter dessus. L'Assemblée nationale ne peut pas faire des déclarations à l'emporte-pièce. D'abord, on doit appeler les députés pour les écouter. Est-ce que dans vos circonscriptions, il y a eu ceci, cela ? Ça, le bureau de l'Assemblée nationale, s'il ne diligente pas d'enquête, il a déjà les députés. Posez la question à chaque député, vous aurez ça. Je ne me reconnais pas dans ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale et j'ai adressé à ce même bureau de l'Assemblée nationale...
Un courrier.
Voilà.
Mathurin Djimele Nakwe, vous avez une minute rapidement sur la position de l'Assemblée nationale par le biais du bureau.
Non, moi je pense que l'Assemblée nationale a un mode de fonctionnement réglementé par une loi qui est la loi portant règlement général. Pourtant, règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il se trouve que l'Assemblée nationale est aujourd'hui en intersession. Et lorsqu'il y a intersession, l'Assemblée ne peut pas convoquer les députés. L'Assemblée, le bureau se réunit et peut faire une déclaration. Ça, c'est le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je vous disais ici que pendant une période pareille, telle que celle-là, je pense qu'il devait avoir l'union de tous les Centrafricains autour de son armée pour un soutien afin que le pays soit réellement libéré. Nous avons trop souffert.
Mais quand l'armée exerce des exactions sur les populations qu'elle est censée défendre...
Excusez-moi, il y a trop de mensonges autour de cette affaire-là.
Il n'y a pas de mensonges.
Est-ce que vous pouvez... S'il vous plaît.
Non,
mais vous avez terminé votre...
Le tout premier souvenir.
Monsieur Bendunga, je vous retire la parole.
De réhabiliter l'armée.
Monsieur Bendunga, respectez la police du débat parce que vous avez terminé votre temps.
Quand il dit que c'est du mensonge, c'est lui qui dit le mensonge.
Est-ce que vous pouvez être patient?
La vérité, monsieur Ndouya Bella,
une des vertus de la démocratie, c'est la patience.
Quand quelqu'un paye pour mentir,
dans votre coin, vous l'écoutez.
Je ne le ferai jamais. Voilà. Nous ne sommes pas dans votre amphithéâtre.
On n'est pas dans la cour d'Europe et tout. On n'est pas dans la cour d'Europe et tout.
Il peut dire et faire ce qu'il veut. Je ne suis pas votre disciple.
Mais respectez les uns et les autres.
Je vous respecterai lorsque vous serez honnête.
Mais non, vous n'êtes pas. Vous dites votre parti, c'est un parti démocrate. Mais ce n'est pas un parti démocrate, c'est un parti dictatorial.
Non, mais lorsqu'il s'agit du peuple, le peuple pour lequel je me bats, monsieur Ndouya Bella, vous défendez votre garde.
Soyez démocrate. Si vous dites votre parti
que vous défendez,
ayez l'esprit.
Je défends mon peuple, qu'on tue le peuple, monsieur Ndouya Bella.
Est-ce que vous avez terminé?
Vous avez fui comme un lapin, vous l'aviez dit.
Mais
moi, je n'ai
pas fui mon territoire.
Je suis resté ici, je suis resté là, et je suis sorti dans les rues pour défendre mon peuple.
Vous voudrez bien que les gens vous écoutent et les gens vous respectent parce que c'est un débat qui concerne la vie des Centrafricains. Moi, je voudrais clôturer ici parce qu'on ne va pas parler dans le brouhaha et qu'on ne donne pas l'occasion aux gens de nous écouter.
Je termine.
Vous terminez quelques secondes.
Je disais que, souvenons-nous, qu'à un moment donné, on avait fait une déclaration sur la RCA en disant qu'il y avait risque de génocide en Centrafrique. Génocide des musulmans en Centrafrique. Est-ce qu'il y avait vraiment risque de génocide? Non. Vous savez, c'est une question d'intérêt, comme disait mon jeune frère, hein, intérêt géostratégique, intérêt géopolitique. Et je vous ai dit au début que toutes ces choses-là ont commencé avec la présence russe en Centrafrique. Terminé. Et moi, j'applaudis. Hein, ces Centrafricains-là qui applaudissent. Moi, j'applaudis.
C'est qui se fait. C'est qui
non, non, je mets
la vérité.
J'applaudis cette présence
la
russe.
La vérité apparaîtra.
Parce que
mon pays, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Mon pays est en train d'applaudir
sur la mort des Centrafricains.
Vous savez.
Mais moi, je n'applaudirai pas sur la mort des Centrafricains.
Non, mais vous avez applaudi sur la mort des Centrafricains.
Il a tellement son temps de parole dépassé.
Non, mais vous avez.
non, mais vous avez applaudi. Vous avez applaudi la mort des Centrafricains.
Je n'ai jamais applaudi la mort des Centrafricains.
Vous avez été ministre des Sénégal. Vous avez été ministre des Sénégal.
Quand le Sénégal était là, où étiez-vous? Je n'ai jamais applaudi. J'ai combattu la Sénégal. J'ai accepté d'être ministre et j'ai été limogé parce que j'ai toujours combattu.
Non, vous avez été limogé pour d'autres.
Et vos petits cours de droit, là, c'est pas un.
Maintenant, vous réagissez devant le peuple centrafricain.
Oui, effectivement.
Le peuple centrafricain, au nord, au sud et à l'est, vous suivez.
Ce n'est pas dans le jugera. Le peuple centrafricain vous jugera. Vous pouvez rire. Mais la vérité vous rattrapera, monsieur.
Si ça vous va bien, je donne la parole à monsieur Kpour Christian Beniga sur cette déclaration du bureau de l'Assemblée nationale.
Merci Armando. Avant de répondre à cette question, je voudrais prendre 30 secondes de mon temps de parole pour répondre au professeur Duy lorsqu'il avait évoqué la question du monopole de la violence légitime de Max Weber dans Le Savant et le Politique. Je ne pense pas que nous avons la même conception du monopole de la violence légitime, professeur, parce que lorsqu'on parle du monopole de la violence légitime, c'est que l'État peut ou déléguer la violence physique pour maintenir ou rétablir l'ordre. Et c'est ce que l'État fait. Mais ça ne signifie pas que le monopole de la violence légitime va avec exaction. C'est pourquoi je dis, moi, je ne veux pas d'entrée de jeu accuser. Mais il faut reconnaître, sur la base des preuves testimoniales dont on dispose, qu'il y a eu exaction. Maintenant, ce qui est important, c'est d'établir les responsabilités. Pourquoi je le dis? Vous savez, nous prenons cette affaire à la légère. Mais le gouvernement, le président Touadéra, à la fin de son mandat, peut se retrouver devant la Cour pénale internationale comme de la blague. Parce que lorsqu'on va établir la responsabilité, on peut établir sa responsabilité. Et donc, il est du devoir de toutes les forces vives de la nation, opposition, je me répète malheureusement, société civile, gouvernement, Assemblée nationale, de prendre à bras le corps la situation. Et ça me permet de répondre à la question que vous m'avez posée concernant la sortie du bureau de l'Assemblée nationale, notamment du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Évariste Ngamana. Monsieur Ndjimbila a rappelé ici ce qui a été prévu par la loi qui régit le fonctionnement interne de l'Assemblée nationale. Mais moi, je voudrais qu'on aille plus loin que cela. Pourquoi je le dis? Je me souviens que du temps où les Chinois avaient exploité l'or dans la ville de Bozoum et que la situation de la communauté riveraine était déplorable, la population vivait dans une situation chaotique indescriptible. Au niveau du GTSC, nous avons déployé une mission sur le terrain. J'y étais. Avant d'aller sur le terrain, lorsque nous étions sur le terrain, on nous a fait comprendre que l'Assemblée nationale a mis en place une commission. La commission avait fait une descente sur le terrain. C'est à saluer. Et l'Assemblée nationale avait rendu un rapport. Et les conclusions de ce rapport n'étaient pas très loin des conclusions du rapport du GTSC. Et il faut aller dans ce sens-là. Ce que le bureau a fait, je pense que ça peut prêter à confusion. C'est comme si le bureau vole au secours du gouvernement. Voilà. Moi, je veux que le bureau de l'Assemblée nationale puisse mettre en place une commission parlementaire.
Ça a été
annoncé. Que cette commission descende sur le terrain. Que cette commission fasse le travail. Et à partir de ce moment-là, les résultats du rapport de cette commission vont permettre effectivement de discuter les résultats rendus par le rapport de CNN International.
Dans la déclaration du bureau, le bureau a annoncé la mise en place d'ici peu de cette commission d'enquête, mais déjà la prise de position de la
CNN. Je veux bien, et j'encourage cela, mais que cela ne soit pas un effet d'annonce. Il faut qu'on se le dise, que cela ne soit pas un effet d'annonce. Il faut que ça se fasse, que la société civile fasse une descente, que les médias investissent, que les journalistes investissent, qu'on ait plusieurs sons de cloche et nous allons analyser les conclusions de chaque rapport, de chaque descente sur le terrain. Ça permet effectivement de discuter davantage de ce qui a été.
On clôture ce débat, mais je vous donne 10 secondes pour dire, selon vous, si et jamais les forces armées centrafricaines sont épinglées dans tous ces rapports, quelle serait la suite?
Il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner. Ça va de soi. Il faut les sanctionner. Il faut discipliner notre armée. Si notre armée est mise en cause, il faut les sanctionner. Si ceux qui sont venus nous appuyer sont mis en cause, il faut les sanctionner.
Oui, monsieur Ndjoui, vous direz.
Je souscris entièrement à ce qu'il dit. Il faut cette mise en cause. C'est pour la loi. Moi, je suis contre cette liaison dit. Là, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, l'Assemblée nationale peut, dans l'étude des prérogatives, peut mener une enquête, tout comme le gouvernement a mis en place une enquête. Si à l'issue de cette enquête, on a les preuves concordante, qui met des preuves concordantes, qui mettent en cause tel groupe armé ou telle force de sécurité, automatiquement, je pense que les conclusions vont être tirées. Il faut les tirer devant la justice.
Il y a
la justice militaire qui existe.
10 secondes, je vous en prie. Joseph Bendonga, sur ce point, après ces enquêtes-là, vous pensez que si c'est avéré, les sanctions ne pourront pas compromettre la vie du gouvernement centrafricain demain?
Non, l'État centrafricain, l'État restera toujours l'État centrafricain, mais ceux qui ont été responsables de cela, ceux qui ont donner mandat à ceux qui ont commis les exactions auront la responsabilité politique. Et qu'on le veuille ou non, le président de la République est responsable de la sécurité des Centrafricains.
Oui, monsieur Matondjimé Lakoué.
Moi, je ne réponds pas à la question, mais je me réjouis de ce que mon pays est en train d'être libéré. Et on dit en Centrafrique que lorsque ta maison brûle, tu n'as pas besoin de l'eau, on n'a pas besoin que de l'eau propre pour éteindre l'incendie.
Mais on n'éteindrait pas un merci. Incendie et c'est avec la fin de l'essence.
De ce débat politique d'aujourd'hui, le tout dernier du mois de juin. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Tout au long de cette discussion, merci à vous, Monsieur Paul Christian Benega, d'avoir pris part à cette émission. Vous êtes porte-parole du groupe de travail de la société civile GTC et docteur en sciences politiques.
Merci Armando.
Monsieur Mathurin Dimbélénakoué, merci aussi
merci.
À vous. Voilà, coordinateur du groupe du mouvement Centrafrique Debout, une organisation de la société civile qui soutient les actions du gouvernement. Monsieur Alexis Nduyabela, merci.
Merci, salut tous les auditeurs et auditrices de Radio Nipilouka.
Conseiller politique du Premier ministre et docteur constitutionnaliste, merci d'être venu. Et Monsieur Joseph Bendonga, député et président du parti MDRC, merci.
Merci. Radio Ndekeluka.
La partie technique était assurée par Analix Pounimati. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Prenez soin de vous.